Je suis la neige qui crisse sous tes pas. Je suis la lumière sur ta joue saisie par le froid.
Chut, ne dis rien. Arrête-toi, là. Qui je suis ? Le silence. Pascal Paradou.
Le silence, comment en parler au risque de faire du bruit avec la bouche ? Le silence est le thème d'une exposition temporaire et immersive que l'on peut voir actuellement à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Et le visiteur, casque sur les oreilles, est accueilli par une vidéo d'un homme qui marche sur la neige. Bonjour Mark Reed.
Bonjour Pascal.
Vous êtes commissaire de cette exposition. Pour vous, c'est l'expérience même du silence, une promenade dans la neige. C'est là où on le sent, où on l'entend, si j'ose dire.
Oui, pour moi personnellement, en fait, c'est une des premières choses dont je pense quand je pense du silence, surtout à l'extérieur. C'est ces paysages enneigés avec un calme, avec un bruit, avec un assourdissement du bruit.
Pourquoi ça assourdit le bruit, la neige ?
Ah, je pense que c'est ces capacités isolantes, en fait, c'est les petits espaces entre les flocons de neige, en fait, qui fait qu'en fait, ça absorbe le son autour.
Pourtant, elle se fait rare, la neige, avec le réchauffement climatique. Donc, ça veut dire qu'il faut la goûter plus que tout et écouter ce silence. Dans nos vies, dans nos villes, c'est une denrée rare. Est-ce que c'est pour cela que vous avez eu l'idée de cette exposition ?
Oui, c'est intéressant de parler de en fait le début de l'expo, en fait, c'était cette notion de se poser la question, c'est quoi le silence? Et après ça, on va très vite dans la notion de le silence absolu, est-ce que ça existe? Et on comprend très rapidement que ça n'existe pas vraiment, sauf dans l'espace, où il n'y a pas assez de matière, en fait, pour transmettre le son. Et du coup, on revient très vite sur Terre, et cette notion de c'est quoi le silence pour vous, pour moi? Donc, on aborde très vite son côté subjectif.
Et on se balade, là je dis on, c'est le spectateur, hein, se balade dans un espace blanc et noir, d'un point à un autre, et si on doit décrire cette exposition, on entend des sons et des voix, mais en fait, il n'y a rien à voir. Presque rien.
Oui, c'est vrai. Donc, on est dans un grand espace d'à peu près 600 mètres carrés, avec un graphisme, avec une scénographie assez marquante. Il n'y a pas de texte dans l'expo, qui est une des particularités, mais il y a quand même un graphisme assez marquant avec des lignes, avec des courbes, avec des zigzags, les rayures. Et il y a aussi des rideaux, en fait, qui créent des petites zones différentes et beaucoup de jeux de lumière aussi. Donc, ça semble un peu une galerie d'art. Finalement, une grande installation artistique.
Et on se balade comme on veut, en toute liberté.
Exactement, il n'y a pas de parcours particulier, on est libre d'aller chercher l'exposition, en fait, et les différents contenus de l'exposition dans l'espace.
Alors, comment vous définiriez, vous, Mark Reed, le silence ? Parce que dans une émission qui s'appelle De Vive Voix, vous comprenez bien le paradoxe, est-ce que ça veut dire qu'il faut se taire jusqu'à l'heure du prochain journal ?
Mais c'est vrai que cette notion de silence est souvent accompagnée par la notion de se taire, de ne pas parler, en fait. Mais dès qu'on arrête de parler, très vite, on commence à entendre d'autres choses. On entend le bruit d'extérieur, le bruit d'une horloge ou des oiseaux qui chantent à l'extérieur. Et si on s'éloigne encore plus de ce type de bruit, en fait, à un moment, on se retrouve avec le bruit de notre intérieur ou même le bruit de nos propres pensées.
Et le bruit du cœur qui bat.
Exactement.
Ce qui peut être assez angoissant, d'ailleurs.
Ça peut être angoissant.
Donc, le silence n'existe pas, ou du moins pas vraiment, et c'est d'ailleurs ce que nous susurre dans le casque une voix venue de nulle part.
Le silence n'est qu'une vue de l'esprit. Crois-tu vraiment que le silence est un fait de la nature ? Moi pas. Pense à une chute d'eau, ça fait autant de boucans qu'une autoroute. Et sais-tu que certains grillons sont capables de produire des sons de 90 décibels ? C'est plus que la perceuse du voisin. Et les poissons alors ? Ils sont muets ? Ils ne font pas de bruit ? Faux. Les harengs du Pacifique pètent dans l'eau et les poissons clowns grincent des dents. Tu vois, la sonosphère de Mère Nature n'a rien de silencieux. Et dans l'espace, il n'y a aucun bruit là, non? C'est juste, mais l'espace, c'est un cas à part. Car dans le vide, aucun son ne peut se propager.
En voyant, en visitant cette exposition Silence, Marc Reed, on apprend donc plein de choses sur les harengs du Pacifique, mais aussi sur le Big Bang, qui n'aurait donc pas fait de bruit. Il n'a fait ni Big ni Bang.
Exactement, c'est le feu d'artifice le plus silencieux de l'histoire.
À la recherche du silence, il faut aussi raconter l'œuvre du compositeur américain John Cage, baptisée 4 minutes 33, que l'on peut d'ailleurs entendre dans l'exposition, comme si l'on était au concert. On peut s'asseoir, il y a une image d'une salle de concert, et on entend quoi ?
On entend le bruit du spectateur, en fait, qui anticipe la performance, qui tousse, qui bouge un petit peu sur place. Et on se demande ce qui se passe. Et petit à petit, on comprend que l'œuvre, en fait, consiste de rien de tout.
Donc, il n'y a pas de partition dans cette œuvre de John Cage.
Il y a des partitions écrites, mais il n'y a rien dedans. Curieusement.
Et il voulait faire une partition sur le silence, il voulait faire une œuvre sur le silence, et c'est lui qui finalement a réalisé que ça n'était pas possible et qu'il entendait toujours des choses à chacune des représentations, ou plutôt des présentations de cette œuvre, 4 minutes 33. Vous l'avez écouté, cette partition ?
Oh oui, je suis tourné dans l'expo plusieurs fois, et cette partition-là, j'ai découvert en faisant l'expo, mais il y a plusieurs représentations de cette œuvre qu'on peut écouter.
Qui peut durer un peu plus longtemps s'il y a des bis, par exemple.
Si on veut.
Alors, de l'autre côté, je vous propose 2 minutes 38 de musique sonore et bien sonore avec Spiltab. C'est une chanteuse franco-coréenne dont on annonce en mai prochain le premier album, Angie, et un avant-goût avec ce titre, Assis. Sur RFI, est-ce que ça va, Mark Reed? Est-ce que je vous offre des boules quies ou non, vous supportez 2 minutes 38 de musique?
Oui, tout à fait. Là, 2 minutes 38, c'est parfait.
Alors, à ce propos, l'exposition que vous avez conçue donc, à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, sur le silence, donne quelques repères sur son histoire, dont la création des bouchons d'oreilles au tout début du XXe siècle.
Oui, il y a une petite mention de cette idée qui va avec justement la montée de la notion que le bruit devient quelque chose de gênant et quelque chose duquel on a envie de s'isoler à un moment.
En se mettant des bouchons d'oreilles.
Yes,
et c'est une société allemande qui crée les premiers bouchons d'oreilles contemporains, si j'ose dire, modernes.
Je pense que c'est vrai, oui.
Comment ça, vous pensez que c'est vrai? Mais c'est dit dans l'exposition. C'est une entreprise dont j'ai oublié le nom, mais qui crée des Europax, c'est ça, avec une publicité qui dit « la paix des oreilles ».
Oui, c'est ça qu'on a repris un petit peu dans l'exposition aussi.
Et alors, pour la petite histoire, les boules quies, qui sont une invention française, sont inventées 10 ans plus tard, en 1917. Donc, ça veut dire qu'au XXe siècle, on se protège du bruit.
Oui.
Plus au XXe siècle qu'avant.
Ah oui, au XXe, au XIXe, en fait, c'est avec le début de la révolution industrielle, en fait, avec l'industrialisation, le fait que les populations commencent à s'installer en ville, et les villes grandissent, et du coup, en fait, le niveau de bruit augmente avec l'agrandissement des villes et de l'augmentation des personnes de la population de ville.
Avec ce chiffre, qui est un chiffre d'aujourd'hui, 2 personnes sur 3 disent souffrir du bruit.
Oui.
C'est absolument énorme.
C'est énorme, oui, absolument.
Et ce bruit, alors vous nous faites un peu l'histoire du bruit dans cette exposition, vous nous dites qu'il a été inventé, le bruit, en 1764.
1704, ok.
C'est encore dans votre exposition, l'invention de la première machine à filer, donc qui est une machine qui faisait du bruit. Est-ce qu'on peut vraiment dater si précisément l'invention du bruit?
Peut-être c'est la reconnaissance d'un bruit, donc on parle de l'expo de l'idée qu'un bruit devient, en quelque sorte, devient un bruit quand ça devient quelque chose de gênant. Donc, quand on commence à parler du bruit comme quelque chose de gênant, en fait, peut-être on peut commencer à dater ce moment plus précisément.
Donc, c'est une machine qui devient gênante. Mmh. Et bien sûr, le summum du bruit, c'est pendant les guerres, c'est sur le champ de bataille. Et là encore, le visiteur se promenant dans l'exposition peut être saisi par une bande-son.
Journal de guerre d'un médecin militaire. La guerre, c'est du bruit, et le bruit est une arme. Il s'agit d'assourdir l'ennemi, de tuer le silence, de faire régner un silence de mort. Et pourtant, certains n'hésitent pas à faire l'éloge du bruit de la guerre. Les futuristes, notamment, qui se vautrent dans le bruit.
Le bruit est une arme, comme le dit ce court extrait sonore. Est-ce que ce peut être aussi le silence qui est une arme, Mark Reed?
Absolument, oui. Le silence, c'est quelque chose assez ambivalent, comme le bruit. Donc, un silence volontaire, un silence qu'on cherche, peuvent être une source de force et d'énergie. Mais à son encontre, en fait, le silence imposé, donc être privé de toute autre sensation, de stimulation extérieure, en fait, ça peut très vite devenir quelque chose difficile à supporter et même mauvais pour la santé.
Oui, c'est un instrument de torture, le silence. Ça peut l'être, en tout cas, ça peut être utilisé comme ça.
Exactement. Quand on pense à l'isolement imposé, le solitaire, isolement solitaire. Même le fait d'être toute seule, certaines personnes, en fait, le fait de ne plus être en ville, par exemple, être toute seule à la campagne, même pour certaines personnes, ça devient quelque chose de gênant, de troublant, en fait.
L'autre versant, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est la méditation. C'est-à-dire, c'est le silence des monastères.
Oui, c'est le pouvoir guérisseur aussi du silence.
Où on peut se retrouver soi-même, on peut penser sans perturbation et sans limitation de temps, finalement. Parce que le bruit nous dit aussi une forme de trépidation de nos vies et de nos villes.
Oui, tout à fait, tout à fait. L'exemple de la monastère, en fait, là, c'est un endroit où on parle justement du bienfait du silence et de l'importance du silence. Et comme ça, on ne dit pas les bêtises. Je fais ça rapidement, mais voilà, donc d'être quelqu'un posé à l'intérieur de soi. Mais c'est vrai qu'on pense je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur ces deux personnes sur trois, dire qu'ils sont gênés par le bruit, en fait, on se rend compte que c'est vrai. C'est le silence et le calme, en fait, c'est un bien qui est de plus en plus cherché et de plus en plus difficile à trouver, finalement.
Et vous racontez dans l'exposition des histoires d'ermites, qui sont d'ailleurs des histoires d'ermites assez incroyables, comme celle de Christopher Knight, qui est resté combien de temps
Il a resté, je pense que c'était 13 ans, toute seule. Il s'est isolé dans une forêt en Amérique du Nord, dans l'état de Maine. Et en fait, il vivait en faisant des petits cambriolages dans les maisons, dans les cabines perdues dans les bois, prenant juste le strict nécessaire pour continuer à vivre. Et il a réussi à faire ça pendant ses 13 ans. Mais éventuellement, il était trouvé. Et on a compris à ce moment-là que c'était quelqu'un qui avait disparu il y a 13 ans. Sa maman n'a jamais aller le chercher ou signaler qu'il le cherchait. Et du coup, c'est quelqu'un qui s'est isolé volontairement pendant quelques années.
Et quand il a été arrêté, je crois que c'est en 2013, il avait, non pas perdu la parole, mais presque. Il ne pouvait pas, voulait pas répondre à l'interrogatoire des policiers, justement pour rendre compte de ses cambriolages.
Exactement, il était très monosyllabique. Je pense que même pendant son période dans la forêt, il avait adressé une seule fois un salut à quelqu'un qu'il avait croisé dans la forêt. Avec la police, ils n'ont jamais vraiment réussi à avoir plus qu'un oui, un non, peut-être, pourquoi pas.
Est-ce que l'homme a vraiment besoin de stimuli sonores? Là, je m'adresse aussi bien au commissaire d'expo, au muséographe, que à celui qui a consulté des spécialistes et des scientifiques.
Moi, en tant que muséographe, oui, j'ai besoin de bruit, j'ai besoin d'un peu de son autour de moi, mais j'ai une grande préférence pour le bruit naturel. Les bruits de la ville, en fait, ça me plaît un peu moins.
Mais en même temps, le niveau de bruit ou le besoin de silence, puisque finalement ça va de pair, c'est un couple infernal, bruit-silence, c'est toujours un ressenti personnel. C'est-à-dire que quelque chose qui va vous agresser ne m'agressera peut-être pas moi et inversement.
Exactement, c'est très très subjectif. Il y a un exemple dans l'exposition de personnes qui parle à côté d'un cours d'école, en fait, et un qui dit qu'en fait, là, j'adore écouter les enfants qui crient la joie des enfants, et un autre, en fait, qui trouve ça insupportable. Donc, c'est extrêmement subjectif.
Et puis, on évoquait tout à l'heure l'œuvre de John Cage, 4 minutes 33, qui sont 4 minutes 33 de silence. C'est aussi une expérience de la durée, parce que pour certains, ça peut être juste reposant le temps d'une sieste, et pour d'autres, ça peut être juste insupportable, 4 minutes 33, sans aucun bruit ou presque. Donc, c'est là encore très, très subjectif.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est le retour de beaucoup de nos visiteurs. En fait, il y a certains qui disent « Ah, oh, c'était super, je me suis assise, j'ai passé un moment très agréable. » Et d'autres qui ne comprenaient pas et ça les a agacés, en fait. Donc, et vraiment, les deux extrêmes de réaction sont possibles.
Résister au bruit, résister à l'attrait des voix au cours de la déambulation dans cette exposition. On peut aussi entendre Ulysse et le chant des sirènes.
Ulysse, écoute bien ce que je vais te dire. Il faut obéir à maîtresse Circé. D'abord, tu vas arriver chez les sirènes qui enchantent les hommes par leur chant mélodieux. Mais toi, Ulysse, navigue rapidement au-delà et bouche les oreilles de tes compagnons avec de la cire molle, de peur qu'aucun d'eux entende. Pour toi, écoute-les si tu veux, mais que tes compagnons te lient à l'aide de cordes dans la nef rapide, debout contre le mât, par les pieds et les mains.
Extrait sonore de l'exposition Silence à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Marc Reed, dans cet moment, dans cet extrait, vous évoquez Homère, mais vous évoquez aussi Sénèque dans votre exposition. Histoire de dire que ce n'est pas qu'une affaire récente, le couple infernal bruit-silence. Ça traverse l'histoire des hommes, en fait.
Absolument. Dès qu'on commence à vivre en ville, Sénèque se retrouve en ville et en fait, l'entretien qui se passe, en fait, c'est tiré de ses lettres en fait, qu'on comprend en fait, qu'il était, il était obligé d'apprendre à vivre avec le bruit extérieur et de faire abstraction de cette bruit extérieur pour retrouver son silence intérieur.
Oui, et c'était sa dope, si j'ose dire. Il lui fallait du silence pour penser, pour être un grand philosophe.
Exactement.
Avec cette exposition, alors comment la nommer ? Elle est à la fois impressionniste, elle fait référence à la littérature, elle peut faire référence à l'histoire, elle fait référence à nos sensations, il y a quelques paysages. C'est un peu un ovni, c'est un peu un objet non identifié, cette exposition pour la Cité des sciences, non ?
Oui, absolument. C'est, on dit souvent sur notre marque de fabrique, c'est qu'on est un musée, c'est un centre scientifique très, très interactif. On veut que nos visiteurs explorent, discutent, touchent, manipulent, interagir avec le contenu. Et cette expo-là, c'est plutôt une invitation de faire une petite pause de tout ça, mettre tout ça à côté pour quelques minutes et en fait faire un autre type d'expérience. Et donc, c'est vrai que c'est une offre assez originale pour nous, mais on est très contente de pouvoir proposer ça aux visiteurs.
Et puis c'est une exposition et c'est un lieu, globalement, la cité, où il y a beaucoup de jeunes gens, des collégiens, des lycéens qui viennent en classe, avec leur classe en classe. Est-ce que vous avez voulu sensibiliser justement ces jeunes à ce fléau du bruit ou à ce désir du silence, puisqu'il faut toujours être ambivalent et tenir les deux bouts?
Oui, absolument. Une des idées qui est revenue assez vite, c'était que le silence et le bruit ne sont pas que des choses qu'on entend ou on n'entend pas. En fait, c'est aussi une sorte d'agitation. Et cette agitation peut être aussi bien numérique, donc la sollicitation constante de nos téléphones, par exemple, pour les réseaux sociaux. Et c'est aussi pour nous une occasion pour les enseignants de venir avec les élèves et se dire, expérimenter un peu le silence, expérimenter de se couper un petit peu de vos réseaux et de vos connexions et passer un moment autrement à l'intérieur de cette exposition.
Mais alors pourquoi ne pas l'avoir appelé bruit, cette exposition?
C'est intéressant comme question. Le titre original de cette exposition, tel qu'il avait quand il était présenté en Suisse, parce que c'est une musique qui a été présentée pour la première fois par le musée de la communication à Berne, en Suisse, ça s'appelait Sounds of Silence.
Les sons du silence.
Exactement. Après la chanson de Simon & Garfunkel, très connue, bien sûr. Et du coup, en fait, on aurait pu peut-être garder cette norme-là qui est finalement un peu plus descriptif du contenu de propos de l'expo.
Mais oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de sons dans cette exposition sur le silence. Alors, Marc Reed, je ne vais pas vous demander une minute de silence, mais nous allons écouter quasi religieusement la puce. C'est toutes les semaines la chronique de Lucie Bouteloup.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Est-ce que le silence, vous savez ce que c'est, vous si volubile?
Évidemment Pascal, surtout quand j'ai pas un collègue qui vient dans mon bureau pour me distraire et m'empêcher de travailler, si vous voyez ce que je veux dire.
Mais vous pensez à qui?
Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai, parfois, quand je suis bien tranquille, ça m'arrive, hein, rarement, et que j'ai fini mon boulot, bien sûr, j'en profite pour coincer la bulle. Pof ! Là, voilà l'expression du jour. Coincer la bulle. Alors, d'après vous, de quelle bulle s'agit-il ?
La bulle de savon.
Ah, ça serait joli, hein. La réponse tout de suite avec Géraldine Moinard. Elle est lexicographe aux éditions du Robert. Mais avant, Pascal...
Les enfants.
C'est c'est quand t'es bloqué. Parce que coincer la bulle, bah, c'est dur de coincer une bulle.
Être dans le pétrin. Parce que coincer, ça peut aussi vouloir dire qu'on est dans le pétrin, qu'on a raté quelque chose, qu'on sait pas comment on va s'en sortir.
Ce serait une bulle d'eau ou de savon. Et coincer une bulle, bah, à chaque fois, elle bouge. Donc ce serait plutôt faire quelque chose de difficile.
La bulle, c'est bah, quand t'es dans ton espace, quand t'écoutes pas les gens. Donc quand on coince la bulle, c'est quand on reste vraiment dans notre bulle.
Moi, je pense que coincer la bulle, ça veut dire jouer aux jeux vidéo et rester, par exemple, dans sa chambre que à faire ça.
Ça veut dire quand on essaye d'attraper quelqu'un et qu'on le coince, parce que mais ça peut être très difficile parce qu'une bulle, ça vole et quand on le coince, elle éclate.
Bonjour Géraldine Wanard.
Bonjour Lucie Bouteloup.
Alors, une petite réaction aux propositions des enfants. Il y avait des jolies idées, hein ?
Oui, il y a de belles idées, c'est assez inventif.
La
c'est
bulle de savon.
Oui, la bulle de savon, c'est aussi une activité assez improductive. On a envie que ce soit une bulle de savon qu'on essaye d'attraper, mais ce n'est pas ça.
Être dans sa bulle en jouant aux jeux vidéo.
Il y a l'idée de l'expression dans jouer aux jeux vidéo, puisque c'est une expression qui signifie ne rien faire, se reposer quelque part. Voilà, jeux vidéo, c'est une activité de détente.
Donc, ne rien faire, cela coule douce. Quoi. C'est vraiment prendre du bon temps. Elle vient d'où, cette expression « coincer la bulle » ?
Alors, « coincer la bulle », elle vient d'un petit appareil qui s'appelle le niveau à bulle. Je ne sais pas si vous, les bricoleurs connaissent. C'est un petit instrument qui sert à vérifier l'horizontalité d'un plan. Par exemple, si vous bricolez et que vous posez une tablette au mur, vous placez dessus votre niveau à bulle et vous savez si elle est droite ou si les objets dessus vont se casser la
figure.
Parce
que le principe, c'est donc de coincer cette bulle d'air qui est dans du liquide entre deux repères. C'est ça
voilà,
qui permet de nous assurer que c'est bien
dans du liquide, des repères. Et d'ailleurs, à l'origine, l'expression, Alain Rey dit que la première fois qu'elle apparaît, elle apparaît sous la forme « coincer la bulle entre les repères ». Donc si ma bulle est entre les repères, le niveau est horizontal.
Donc, un niveau à bulle de bricoleur ? Non.
Alors, de bricoleur aujourd'hui, mais autrefois, donc l'expression elle viendrait plutôt de l'argot militaire. Et le niveau à bulle servait à régler des armes lourdes comme le mortier, des armes très lourdes. Il y avait une plaque très lourde à la base pour maintenir le mortier en place. Et il fallait que cette plaque soit très droite, très horizontale, bien positionnée pour que le tir ensuite soit précis.
Donc les artilleurs devaient s'assurer que leur canon était bien horizontal, mais avant de pouvoir l'utiliser, il fallait attendre
L'ordre de tirer. Donc,
et ça, il pouvait y avoir une longue période entre le moment où ils s'assuraient que le niveau était bien droit et le moment où ils avaient cet ordre.
C'est ça, une longue période, voire l'ordre pouvait ne jamais venir aussi. Donc pendant ce temps-là, eh ben, ils attendaient à rien faire et ils pouvaient se reposer.
Une espèce d'oisiveté forcée, en fait.
C'est ça.
Et puis je pense aussi à un verbe qui est « buller ».
Buller, qui vient exactement de cette expression. Donc il y avait l'expression « coincer la bulle » et puis elle a été aussi raccourcie dans ce verbe « buller » qui a exactement le même sens.
Alors, quand on coince la bulle, on peut dire qu'on se la coule douce, comme je le disais tout à l'heure. On peut dire qu'on se met les doigts de pied en éventail.
Oui, on peut se tourner les pouces aussi.
Absolument.
On peut peigner la girafe, expression un petit peu plus ancienne.
Qui est moins utilisée. Hein.
Moins utilisée, mais très sympathique aussi. On feignante, on lézarde, on se prélasse.
On n'en rame pas une.
On n'en rame pas une. On glande.
On glande, on paresse.
Et puis plus récemment, un tout nouveau verbe, on peut dire qu'on chill.
Les Anglais, eux, se reposent sur leur aviron. Quand en Égypte, on dit qu'on grignote des pépins. J'aime bien cette expression. Les Hollandais, quant à eux, préfèrent tirer la ligne. J'imagine que c'est la ligne de pêche. Et les Roumains emballent de la fumée dans des sacs. Autant dire qu'ils font une action qui ne sert absolument à rien. Merci Géraldine Wanard. Vous n'êtes pas du genre à coincer la bulle ni à grignoter des pépins, mais plutôt à bûcher. Merci d'être venue dans La Puce, une puce que vous pourrez retrouver sur le blog du Robert. Dis-moi Robert, à très bientôt Géraldine.
À bientôt.
Merci à toutes les deux. Merci Lucie. Mark Reed, pour vous, j'imagine qu'il y a une seule expression qui compte, c'est le silence et d'or, puisque vous organisez cette exposition sur le silence. Est-ce qu'on le dit, puisque vous êtes anglais d'origine, est-ce que c'est une expression qui se dit aussi en Angleterre, le silence et d'or ?
Oui, c'est tout à fait courant. On dit silence is golden.
Silence is golden. Ce qui veut dire qu'il coûte plus cher que la parole qui est elle est forcément d'argent. C'est la logique. Je vous valide, Lucie.
Absolument.
Merci à vous, Mark Reed. L'exposition Silence est à voir à la Cité des Sciences et de l'Industrie jusqu'au 31 août. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et bien sûr, on se retrouve demain, même heure, même fréquente. Et d'ici là, RFI.fr ou l'application Pure Radio pour nous écouter.